Bonjour, bonsoir et bienvenue à C'est à ton tour avec moi-même, Kevin Laramée, présenté par sportsinspired.ca, le magasin officiel de C'est à ton tour. Vous pouvez vous procurer ce magnifique chandail que je porte présentement au sportsinspired.ca, le chandail officiel de la balado franco quotidienne du Tour de France. C'est à ton tour, étape numéro 7, entre Fougères et Chartres, une étape au sprint, une étape disputée en sprint massif à la fin. Et surprise, non, Gaviria n'a pas gagné, non, Sagan n'a pas gagné, mais c'est Groenewegen de l'Auto NL Jumbo qui a gagné sa deuxième étape de sa carrière au Tour de France après l'étape sur les Champs-Élysées l'année dernière qui avait terminé le Tour de France comme à l'habitude. Étape numéro 7 signée Groenewegen. Malheureusement, je pense que Gaviria a commencé son sprint un peu tôt. Il a été largué à la 250 mètres. Groenewegen a attendu avec patience peut-être un 20 mètres de plus, ce qui fait qu'à la fin, il y avait un vélo et demi d'avance sur un Gaviria. Gaviria qui a réussi à être devant Sagan. Sagan a pris le troisième rang juste devant Arnaud Démare, qui a quand même prouvé qu'il était présent. Groupama FDJ était présent aussi dans ce final. Mais on doit avouer une étape un petit peu plus tranquille. Aujourd'hui, il y a eu un essai de coupe bordure plus tôt dans la journée qui s'est concrétisé un petit peu, mais il n'y a pas la... Il n'a pas été poussé plus loin, qui a été fait par la Trek Segafredo, entre autres, et AG2R, la mondiale, qui ont su prendre une certaine opportunité, créer une certaine bordure, environ à 75 km de l'arrivée, mais c'était trop peu pour les autres équipes qui ont réussi à joindre cette jonction qui s'était créée de quelques distances de vélo, environ 70 coureurs à l'arrière du début du peloton. Une journée quand même assez tranquille. On a eu l'échappée d'une personne au début avec un Johan Ofredo. Ensuite, le peloton est revenu. Un autre échappée avec Pion. Mais c'était tout. C'était vraiment les deux seuls échappés du jour. Le peloton voulait absolument disputer cette fin d'étape au sprint. Et c'est ce qu'ils ont fait. Une étape un peu sans histoire. Pas de changement dans aucun des classements. Le seul vrai changement au général, c'est Greg Van Avermaet, le maillot jaune, qui a réussi à gagner le sprint de bonification qui avait lieu aujourd'hui à 200 km, donc à 31 km de l'arrivée. Et la BMC a bien placé leur leader présent au maillot jaune. Ce n'est pas le leader pour le général. On s'attend à Richie Porte qui sera le leader en montagne plus précisément. Mais Greg Van Avermaet conserve son maillot jaune et a réussi à doubler son avance sur un Garen Thomas qui n'était pas aux avant-postes pour cette bonification au temps à 200 km, 200 bornes, 31 de l'arrivée, qui était dans un petit faux plat montant-descendant, un petit peu en altitude, mais pas vraiment, pas assez pour que ça soit important. Thomas Coins, toujours le leader au maillot à poids, et de la manière que c'est parti, avec deux catégories 4 demain, une catégorie 4 aujourd'hui, donc seulement 3 points total aujourd'hui et demain, et ensuite dimanche sur les pavés, qui n'a aucune catégorie de montagne non plus. Donc Tom Coins aura le maillot à poids durant le jour de repos numéro 1 lundi, et aura le maillot à poids pour débuter les périodes de transition vers les Alpes qui commencera mardi. Mais pour cette étape, vraiment une étape qui a... pas plus que ça à dire. Je vous dirais que Groenewegen nous a montré qu'il se sent de mieux en mieux tous les jours. Mark Cavendish était quand même présent au final avec la Team Dimension Data. Mark Cavendish, qui n'a pas roulé beaucoup en 2018, retrouve petit à petit peut-être la confiance et surtout la vitesse, mais la confiance, la vitesse vient avec la confiance et surtout la confiance en son vélo, la confiance en ses partenaires et aux autres cyclistes pour ne pas lui faire chuter. Je pense que la chute qu'il y a eu l'année dernière au Tour de France l'a marqué un peu psychologiquement et ça prend un petit peu de temps quand même pour être capable de se libérer de cette pression, de ce blocage psychologique qu'une chute comme il a subi l'année dernière qui était due au coup de coude de Sagan, on se rappellera. Donc, je pense que tranquillement, Mark Cavendish retrouve ses jambes et je pense que tranquillement, Mark Cavendish retrouve ses repères, mais je pense que le crépuscule de la carrière de Mark Cavendish est à nos portes et ce serait quand même surprenant de le voir gagner une étape au Tour de France cette année. Je pense que le seul peut-être chance qui lui reste, peut-être sur les Champs-Élysées, s'il est capable de passer les montagnes, et ça, c'est, c'est pas dit pour tout le monde. Hein? Donc, les Champs-Élysées n'est jamais assuré lorsqu'on est un sprinteur au Tour de France. Une mauvaise journée en montagne, rentrez en dehors du groupetto et vous vous retrouvez dans le balai en direction de la maison. Et c'est jamais ce qu'on veut voir en étant un sprinteur. Donc, Gaviria deuxième, Groenewegen premier, Sagan troisième. Sagan a suivi Gaviria lorsque Gaviria a lancé son sprint d'environ 250 mètres. Sagan a manqué un petit peu de jus, mais a été capable de rattraper la troisième position qu'il avait juste de perdre avec Desmarres. Sagan a donné une autre accélération. C'est pas donné à tout le monde d'accélérer une fois qu'on a déjà accéléré. On parle souvent de cartouches brûlées pour un sprinter et on a une chance de tout donner. Un Sagan et sa puissance, des fois, nous montre à quel point les limites qu'on a sont seulement psychologiques et Sagan a réussi à aller chercher cette troisième position de l'étape numéro 7. La Quick-Step était quand même assez en retrait, donc durant les 10 derniers kilomètres, on se retrouvait avec le peloton tout en entier, avec les trains apparaître au début du peloton. On a vu des trains comme la Cofidis qui ont essayé de barrer le chemin à d'autres. On a vu des trains comme la Quick-Step qui était difficile à voir. On n'était pas présent à la fin de cette étape au même niveau que les autres étapes. Je pense que la Quick-Step a décidé de la jouer un petit peu plus tranquille aujourd'hui et demain pour économiser un petit peu les énergies qu'ils ont dépassées durant les 5 et 6 premières étapes de ce Tour de France. Si on se rappelle l'étape numéro 5, l'étape numéro 6, Quick-Step était l'équipe qui a travaillé le plus fort en avant du peloton, même s'ils n'ont pas le maillot jaune, c'est BMC. BMC a évidemment fait sa part du travail, mais Quick-Step, avec les différents coureurs qu'ils ont et les différentes chances de gagner, autant que Gaviria lorsque c'est un sprint pur, autant avec les Alaphilippe lorsque c'est montant, ou un Philippe Gilbert même lorsque c'est un petit peu plus punché, on retrouve la Quick-Step avec une charge de travail assez énorme depuis le début du Tour de France. Et aujourd'hui, ils l'ont pris un petit peu plus facile à cette finale. Et quand même, ils ont bien déposé Gaviria à 250 mètres. Mais si on regarde le dernier lancement d'Alaphilippe avant le dernier lanceur de Gaviria, il y a peut-être eu une seconde perdue ici et là, un petit mouvement, une petite hésitation qui a peut-être causé la différence entre un Groenewegen mais un Gaviria. Mais un Groenewegen qui parlait ce matin que pour lui, un sprint pur, c'est bien. Un sprint comme aujourd'hui qui a minimum de faux plats montants. Quand je dis faux plats, c'est vraiment à peine faux plats montants. Le final se terminait à 600 mètres de l'arrivée en ligne droite. Il y avait quelques passages un petit peu plus sinueux avant ça, avec un virage droite à 2 km, et gauche et droite ensuite, qui s'est terminé avec un 600 mètres tout droit. Quand même, c'est large, on parle de 6,5 mètres de large sur cette route pour terminer à Chartres, devant cette très belle et très grandiose basilique qu'ils ont à Chartres, qui s'appelle la Basilique Notre-Dame, rien à voir avec celle de Paris ou celle de Montréal, mais beaucoup plus grande et beaucoup plus belle que celle de Montréal, on va être honnête ici. Mais je trouvais que c'était une bonne idée aussi d'essayer d'économiser quelques énergies pour les prochaines étapes. On parle de l'étape numéro 8 de demain qui se devrait se terminer au sprint aussi. On va en parler dans quelques instants. Mais la Quick-Step qui a peut-être économisé un petit peu d'énergie pour ne pas tout dépenser tout de suite pour eux avec les quelques prochaines étapes qui pourraient peut-être les bénéficier. On parle toujours d'un Alaphilippe et d'un Gilbert lors des étapes qui ressemblent à une classique comme dimanche, Paris-Roubaix. Toujours des noms qui sont dans le top 10 de nos prédictions, évidemment un Sagan aussi, un Greg Van Avermaet qui est quand même un des favoris pour ce dimanche. Ne pas oublier un Geraint Thomas qui habituellement passe bien les pavés. Des fois non, c'est arrivé une malchance et on sait jamais, malchance arrive vite. Mais pour l'instant, Geraint Thomas est le leader peut-être de leur équipe qui n'a pas connu d'ennui. Est-ce bon présage, mauvais présage avant l'étape des pavés de ce dimanche? C'est là la question. 15 secteurs, 21 km. Bien content qu'il n'y ait pas le Carrefour de l'Arbre, par exemple. Ça pourrait Nuremberg qui pourrait tout changer. On parle des deux plus grands secteurs et des secteurs les plus difficiles qui ont même des montées en pavé lors de Paris-Roubaix qu'ils ne sont pas présents pour cette course de dimanche, cette étape qui est l'étape la plus attendue du Tour de France jusqu'à présent et l'étape qui commence la même journée avec la finale de la Coupe du Monde et de Wimbledon. Je ne crois pas que c'est un hasard. Le Tour de France a profité de cette journée qui va avoir beaucoup d'yeux devant la télévision pour mettre une étape très spectaculaire ce dimanche. Et en espérant que la météo collabore ce dimanche, on s'attend à une météo sec et quand même assez chaude. On parle entre 25 et 28 degrés Celsius pour l'étape de dimanche. Et surtout, on parle d'une étape sec. Donc, on parle d'une étape qui sera poussiéreuse et non boueuse, qui est toujours un petit peu plus agréable, mais vous rappelez-vous, c'est spectaculaire aussi lorsque c'est poussiéreux. On voit le peloton passer en entier, la poussière se lever, disparaître dans un nuage de poussière et on voit ressortir souvent le vainqueur un petit peu plus tard dans ces secteurs pavés. Mais pour continuer sur l'étape d'aujourd'hui, 3 secondes, Greg Van Avermaet, qui portait attention lors du sprint de bonification à 200 km de la ligne. Et en passant, le sprint intermédiaire gagné par Gaviria. Est-ce que Gaviria a laissé une cartouche de trop sur ce sprint intermédiaire qui lui a empêché peut-être d'être le gagnant de cette étape? C'est possible. Mais je pense pas que la vitesse à laquelle le sprint intermédiaire est disputé. Oui, c'est un sprint, mais c'est pas un sprint à 100%. Ce sprint, OK, mais là, on est bien placé. On est 3-4 bien placés. Démarre, Sagan. Gaviria était là. Et un grand again, mais évidemment, Gaviria a gagné devant Sagan ce sprint intermédiaire. Malheureusement, Sagan derrière. Sagan n'a juste qu'à protéger son avance présentement avec le maillot vert. Et si c'est ce qu'il fait durant les prochaines étapes et passe les montagnes, on se retrouve avec une forte probabilité de voir Peter Sagan remporter un 6e maillot vert pour le Tour de France, qui serait un record et égalerait le record de Éric Zabel, qui date de début des années 2000. Donc, un bien bon temps, bien longtemps de ça. Et c'était un autre sport, je vous dirais, au début des années 2000. Pas besoin de vous dire pourquoi. Un certain Lance et un certain trois lettres EPO et beaucoup d'autres qui ont malheureusement contribué à la mauvaise réputation du sport durant ces années. Maintenant, l'étape de demain, étape numéro 8, une étape sans histoire aussi qu'on prévoit. Deux catégories 4, on parle ici d'une étape de 180 km en passant. L'étape numéro 7 était l'étape la plus longue du Tour de France avec un 231 km. Samedi 14 juillet, la Bastille, on parle de 181 km entre Dreux et Amiens Métropole, une des grandes villes de cette région de la France. Une étape de plaine. On parle du premier Grand Prix de la montagne de cette journée, Côte de Passy-sur-Eure, 2 km à 4,3%. Et celui-ci arrive à 35 km après le début de l'étape, après kilomètre zéro. Et on parle de 2,3 km pour la côte de Feuquerolles à 4,3%, le deuxième Grand Prix de la montagne de la journée, qui a lieu à 71,15 bornes de l'arrivée et à environ 70 bornes du départ. Ensuite, le sprint intermédiaire à la Neuve-Grange aura lieu à 86,5 km après le début de l'étape et peut-être verra un certain Gaviria aller essayer d'aller chercher quelques points devant Peter Sagan, mais c'est quand même une mission assez difficile. Je pense que les seules chances de Gaviria de gagner ce maillot vert seraient de voir un Sagan en difficulté en montagne, mais si un Sagan est en difficulté en montagne, il y a fortes chances que Gaviria soit encore pire cette journée-là. Donc, je pense que c'est dans la poche pour un Peter Sagan. Tout dépendant, Peter Sagan est un des favoris même pour gagner l'étape Arras-Citadelle-Roubaix qui aura lieu ce dimanche. Donc, Sagan gagne une étape ou deux et c'est fini. Hein. C'est tapis. C'est le maillot vert pour un Peter Sagan. Le bonus de temps, l'avant-dernier de ce Tour de France, aura lieu à 160,5 km, donc à 21 km de l'arrivée à Leuilly. Et est-ce qu'on va voir un Geraint Thomas essayer d'aller rechercher un 3 secondes? Car c'est vraiment la seule différence durant cette étape numéro 7. Greg Avermaet qui a réussi à gagner ce temps de bonification devant tout le monde. 3 secondes, reprend 6 secondes d'avance sur Geraint Thomas. Mais Geraint Thomas regarde l'étape des pavés et se dit hey, « est-ce que je suis capable de prendre 6 secondes sur Van Avermaet? » 6 secondes, c'est beaucoup. Un 3, un 4 peut-être, mais 6 secondes sur Van Avermaet qui est dans son territoire fertile des pavés et des étapes semi-classiques. On parle d'une étape semi-classique parce que pas aussi long. Les secteurs sont difficiles. On parle des secteurs pavés qui ne sont pas faciles, ces 15 secteurs-là. Mais comparé les autres fois que nous avons vu les pavés au Tour de France durant les quelques dernières années, beaucoup plus difficile que ces fois-là, mais c'est quand même pas un Roubaix. C'est quand même pas le Paris-Roubaix, ce n'est pas l'enfer du Nord. Ce n'est peut-être juste que l'enfer du Tour. Donc, l'enfer du Tour, ce dimanche, 15 juillet, 156,5 km. L'étape qui nous verra peut-être quelques leaders du Tour, quelques leaders de leur équipe respective avoir quelques difficultés et peut-être nous allons voir un certain changement au classement général. Ce n'est pas quelque chose que l'on souhaite, par exemple. C'est jamais intéressant de voir un des leaders, un des favoris du Tour, subir une blessure, subir une grosse chute sur les pavés. Souvent, une chute sur les pavés ne pardonne pas, à moins que vous êtes capable de vous lancer dans le gazon quand c'est le temps, tout dépendant de quel secteur vous êtes, mais si vous chutez directement sur les pavés, très douloureux. Et lorsque c'est sec, c'est même des fois un petit peu plus pire parce que il y a un petit peu moins d'humidité pour absorber le choc, surtout si vous êtes capable de viser la boîte, comme on dirait en bon français. Donc, l'étape de dimanche, c'est l'étape à surveiller. Demain, encore une fois, l'étape numéro 8, Dreux-Amiens-Métropole. Et je crois bien que ce sera une étape au sprint aussi. Tom Scoynes aura le maillot à poids, comme on disait, jusqu'au moins jusqu'à l'étape de mardi. Pour ce qui est du maillot blanc, aucun changement. Le maillot des jeunes coureurs est à Sven Grøg Andersen. Lui, là, vous savez de qui je parle. C'est lui qui a le maillot blanc. On s'attend à un changement pour le maillot blanc dès que la montagne commence. Egan Bernal de Team Sky est présentement le coureur avec les capacités en montagne. Un des lieutenants, Chris Froome en montagne ou de Geraint Thomas. Tout verra, tout dira. On verra après l'étape numéro 9 qui est vraiment le vrai leader de Team Sky. Mais on dirait vraiment que Chris est plus en difficulté qu'on pensait. Le doublé Giro Tour durant la même année. Et je dirais même plus, si on regarde le quadruplé, parce que les quatre derniers grands tours, Chris Froome était participant et a gagné les quatre derniers grands tours. Ce qui n'est pas le cas de Geraint Thomas. Geraint Thomas n'a pas fait le Giro d'Italie pour se préparer et pour garder sa fraîcheur pour le Tour de France. Et jusqu'à présent, on voit les résultats pour la Team Sky. Geraint Thomas, seulement à 6 secondes du maillot jaune, Greg Van Avermaet. Le reste du classement général n'a pas changé. Maillot vert, Peter Sagan, lorsqu'on mentionnait maillot à pois, Tom Scoynes. Et le maillot jaune, Greg Van Avermaet, avec 6 secondes d'avance sur le plus poche rival, qui est Geraint Thomas de l'équipe Sky, en deuxième position. Alors, vous aimez l'émission? Abonnez-vous! Regardez, on Google « C'est à ton tour » avec Kevin Laramé. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, @KevLaramé, mon compte personnel, ou sur le réseau, @sportspodnet. Sur notre page Facebook, vous pouvez regarder pour le réseau SPN, réseau de balado sportive, tous les vidéos que nous faisons. Nous sommes disponibles en direct sur YouTube au youtube.com/sportspodcastingnetwork et sur notre page Facebook en différé SPN, réseau de balado sportive. L'émission est présentée par sportsinspired.ca. Je vous suggère de nous visiter et de voir notre belle collection inspirée par le Tour de France. Un beau maillot qui est jaune avec un beau vélo. Maillot inspiré par le maillot à pois qui est un des chefs-d'œuvre de design que j'ai vu récemment. Et le chandail officiel de cette émission, le T-shirt, c'est à ton tour. Si vous regardez l'émission en vidéo, vous pouvez voir, je le porte présentement avec fierté. Et vous pouvez, vous aussi, le porter avec fierté pour une modique somme au sportsinspired.ca. Merci de nous suivre et jusqu'à demain, je vous souhaite bon vélo.